Salut à tout le monde, salut à vous auditeurs de Radio Coto, je transmets pardon le relais à Maître César.
Maître, qui c'est celui-là?
Irremplaçable
Néo-remplaçable
César.
César. Oui, bah, mesdames et messieurs, une fois de plus, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va pas avoir du blues,
Non.
parce qu'hier, on a eu notre dose quand même, pour ceux qui ont écouté, et c'était vraiment très bien. Et aujourd'hui, ça sera pas plus mal, parce qu'on va parler nature. Voilà. Nous avons invité, parce que je suis pas tout seul dans le studio, Christian Vergès. Bonjour Christian.
Bonjour.
Voilà, qui avec Marianne Cornelis s'occupe d'un domaine, le domaine d'Ansarnaud. C'est dans le Haut Astarac.
Tout à fait.
Voilà, un domaine assez conséquent quand même,
65 hectares.
65 hectares, c'est pas rien, et sur lequel il y a des éco-gîtes.
C'est ça.
Des écogides et sur lequel on trouve également un troupeau. Et là, c'est pas de la blonde d'Aquitaine, mesdames, messieurs, c'est des poneys.
Il y a des vaches aussi.
Il y a des vaches aussi, ouais, des mini.
Des Highlands.
Des Highlands, voilà, elles ont une tête assez.
Caractéristique.
Enfin, on les verrait bien sur des peintures rupestres,
Tout à fait.
par exemple. Bon, alors, comme c'est un domaine, nous semble-t-il, qui vaut le coup d'être commenté, c'est pour ça que le maître des lieux est avec nous. Alors, déjà, vous avez déjà quelques kilomètres dans les pattes là. Comment vous en êtes arrivé à gérer ce domaine? C'est quoi le passé pour pouvoir vous occuper de ce domaine-là?
Ah voilà, donc il y a tout un historique. C'est-à-dire que dans l'idée, mon épouse et moi, on avait envie toujours d'être indépendants. Ça veut dire.
Indépendant l'un de l'autre?
Aussi, par rapport à certaines activités,
Oui.
mais indépendant en couple aussi,
Ouais.
le statut d'indépendant.
D'accord,
Statut TUT, parce que je vous voyais. D'accord. Donc,
D'accord.
ça veut dire qu'après certaines expériences dans différents domaines, on a ensemble créé un poney club.
D'accord.
Donc, les bases
Mais pas
de.
dans la région.
Non, nous étions en Belgique, mon épouse est
D'accord.
belge, hein.
Oui.
Nous étions en Belgique. Mais les bases de la création de ce poney club, c'était donc poney enfant.
Oui.
Et les parents qui sont derrière, avec une certaine sécurité, un moyen de bien fonctionner, puisqu'il fallait la pédagogie dans le jeu. Mais l'essentiel, c'était le bien-être des poneys. Il fallait
Ouais.
qu'on arrive à avoir les besoins fondamentaux des poneys qui soient assouvis. Donc ça veut dire.
C'était il y a combien de temps?
35 ans, quelque chose comme
D'accord,
ça.
ouais.
Et là. Il y avait un problème parce que pour assouvir les besoins fondamentaux des poneys, le poney est un animal de steppe, le cheval est un animal de steppe, ça veut
Ouais.
dire qu'il a besoin d'espace, il a besoin du troupeau, et ça aurait pu être contradictoire par rapport à l'idée, en tout cas, qui était en cours à ce moment-là, de poney club. C'est-à-dire, en poney club, les chevaux sont en boxe, il faut pouvoir les récupérer rapidement, il y a une certaine idée de rentabilité,
Ouais.
etc.
Comme on trouve partout, souvent, enfin, ouais.
Voilà ce qu'on peut appeler les manèges, le
Ouais.
centre équestre, voilà. Et ça a été un de nos premiers problèmes. Je vais arriver après ce qu'on a fait après, parce que c'est la même démarche où on s'est dit que ce qui était essentiel, ce qu'on devait absolument préserver, c'était ses besoins fondamentaux. Parce que si les chevaux, les poneys étaient bien dans leur tête, après on n'aurait aucun problème par rapport à tout ce que l'on pouvait faire au point de vue enseignement, au point de vue avec des enfants de milieux différents, de caractères différents. Enfin, voilà.
Et ça, c'était bien avant l'homme qui murmura à l'oreille des chevaux.
Tout à fait, mais il y en avait beaucoup
Ouais.
qui murmuraient sans le dire. Hein,
Ouais.
voilà,
Quand même, oui, il y avait
oui, tout à
des
fait.
prémices.
Oh,
Ouais.
oui. Ah oui, la Guérinière, par exemple, un grand cavalier français de l'époque de Louis XIV, travaillait déjà comme ça.
D'accord.
Oui, même là, il y a eu des problèmes parce que les traditionalistes français de l'équitation en veulent aux Américains parce qu'ils sont venus chercher en France, mais ils ont mis la pédagogie derrière pour expliquer un peu mieux. Et
D'accord.
nous, il fallait aller la chercher. Donc, eux, ils sont quand même comédiens, ils savent vulgariser les choses. Donc, ça a été plus facile.
D'accord.
Donc, nous, là, on avait ce problème-là, vouloir garder les chevaux en liberté, en troupeau, et en même temps. Donc, on a dû réfléchir et, avec un problème qui se posait, en faire quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on a décidé de avoir les chevaux en troupeau et offrir des séances d'équitation de 2 heures où les enfants iraient chercher les poneys dans la prairie. Donc on allait chercher, premier contact avec le poney, on mettait au licol. Donc il y avait beaucoup de choses par rapport aux enfants qui avaient un peu peur, qui étaient tendus. On marchait avec les poneys à côté. Enfin bon, voilà. Donc tout ça pour dire que notre deuxième aventure dans le Gers, après un peu plus tard, bien plus tard, on s'est posé un peu tous ces problèmes aussi. On s'est dit, il y a des choses qui ne collent pas comme on voudrait, comment on va faire pour les rendre positives. Voilà, pour essayer qu'un handicap devienne quelque chose d'intéressant, de positif. Au contraire, on s'appuie dessus, c'est une marche ou une démarche. Voilà.
Donc l'expérience belge fut positive ?
Très très positive, très positive. Parce que, bon, on travaillait déjà dans cette idée... comme l'homme qui remuerait, c'est-à-dire que la première des choses, c'est de se dire que le cheval est un vélo qui réfléchit, c'est ce que je dis souvent aux enfants, donc ça veut dire que parfois il n'a pas les idées que l'on a nous. Et l'idée, c'est que, enfin, le but, c'est que notre idée devienne son idée. Donc, et c'est certainement pas en s'imposant que ça va marcher. Donc il faut connaître son fonctionnement dans le troupeau, qu'il écoute, qu'il est... Enfin, respect, confiance, sécurité, tout ça c'est essentiel. Mais c'est comme nous, hein. Confort et sécurité, c'est important pour nous. Tout à l'heure, on parlait, est-ce qu'ils n'ont pas froid, s'ils sont bien, s'ils sont confortables et en sécurité. Donc il faut que je leur mette de l'eau, puisqu'on parle du temps qu'il fait maintenant, où depuis 85, on n'a pas eu autant de froid et de neige aussi longtemps. Bon, s'ils ont de l'eau quand ils vont rentrer, ils ont de la paille, ils ont du foin, ils sont très bien.
Mais quand je fais un petit retour en ce moment chez nous, là, les chevaux, là, quand ils ont des boxes quand même ou
non, bien,
non, jamais, ils restent en liberté. Hein, on est d'accord.
Alors là, maintenant, pour des raisons de terrain, on a un terrain très argileux. Ça veut dire qu'on pourrait les nourrir à l'extérieur, mais très très vite, surtout là maintenant, par exemple, quoi, le dégel va arriver, ça va être une gadoue pas possible, et puis dès que le terrain va, dès qu'il va faire sec, c'est un terrain béton. dur, béton, et on va avoir les traces des poneys. Alors c'est très intéressant pour essayer de retrouver les traces des chevaux ou des vaches, mais sinon c'est difficile. Donc là, je dirais entre le 11 novembre et début mars, quelque chose comme ça, ça dépend un peu des années. Le soir, ils rentrent et on les nourrit dans une grande stabulation. Ils ont des râteliers, ils rentrent. Donc, ils ont, ils restent un troupeau. Ça veut dire que les dominants, chaque personnalité peut s'exprimer, mais dans une grande stabulation. Et la journée, ils sont sur 30 hectares. Quoi.
D'accord. Bon, là, j'étais revenu maintenant. Et pour retourner à l'époque où vous avez créé la première... une première structure de ce genre-là. Vous aviez quelle formation pour respecter, enfin, à ce point-là, les animaux ? Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, comment ça se fait que c'est arrivé ? Parce qu'apparemment, vous étiez deux à penser pareil.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, on parlait d'indépendant tout à l'heure. On était indépendant, mais sur ces idées, on se rapprochait, on s'est retrouvés. Bon, ça fait quelque temps qu'on vit ensemble, donc... Oui, c'était important. Même parfois, on avait nos deux enfants qui nous reprochaient parce que du matin, un petit déjeuner jusqu'au soir, on parlait souvent comportement des poneys ou comportement des enfants, puisqu'on était passionnés et par tout ce qui était comportement des troupeaux en général, donc humains et
animaux.
Voilà, donc c'est plutôt une curiosité, c'est plutôt une sensibilité. Moi, je suis originaire des Hautes-Pyrénées. Et j'ai travaillé tout petit avec mon grand-père qui menait les vaches pour labourer, pour faucher, tout ça, on était en montagne, c'est au pied du col de Bisque.
D'accord.
Mes grands-parents maternels étaient de ce côté, et pareil de l'autre côté, du côté paternel qui était de l'autre côté, près de Lucien-Sauveur. Voilà. Donc c'est déjà ça.
Ça laisse des traces.
Ça laisse des traces, et puis j'ai eu la chance d'avoir un grand-père, et puis après... au collège, puisque c'est maintenant cours complémentaire, ça s'appelait, des profs qui nous ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc la curiosité, c'est important. Moi, je suis insupportable si je vais à un café, par exemple, parce que si on est quatre, moi je suis avec, je regarde tous les gens, je mets des rôles, des métiers sur les gens, mais curieux de voilà.
Pas de curiosité malsaine.
Non, pas du tout.
Ouais. Et donc, un jour, il y a eu la discussion, peut-être, pour quitter la Belgique et venir...
Voilà, ben on avait... Moi, j'avais 56, 57 ans. Ouais. On s'est dit, bon, ben, on tourne la page.
Ouais.
Bon, mon épouse avait depuis 3-4 ans, elle avait pris un peu de recul par rapport à la pédagogie. Elle avait quitté l'enseignement au niveau du Poney Club. Mmh. Elle était un peu fatiguée. Donc voilà, ça s'est trouvé comme ça. Et on a dit, ben, on change de vie. Mais avec les mêmes valeurs. C'est-à-dire que là, ce qui est très important, c'est qu'on avait un troupeau à ce moment-là de 28 poneys.
Ouais.
Mais
il a fallu rapatrier là, donc
voilà. Mais sur les 20, tout à fait. Mais sur les 28, il y en avait, on est descendu avec 24. Il y en avait 4 qui étaient trop vieux pour leur
d'accord.
Un transport de 5 km, c'est pas du tout évident. Donc, lorsqu'on a décidé de changer de vie, la priorité, on est reparti sur ces priorités. Tout à l'heure, je parlais de la priorité des besoins fondamentaux des chevaux.
Oui.
Et on retombe là-dessus. Saint-Exupéry disait qu'on était responsable de tout ce qu'on avait apprivoisé. Mm-hmm. C'est exactement ça. Donc, on était responsable de nos poneys. Donc, l'essentiel, lorsqu'on a cherché une ferme, lorsqu'on a cherché quelque chose, c'était qu'on puisse avoir nos poneys.
Mm-hmm.
Qu'ils puissent être dans des prix d'un seul tenant, ça c'est important aussi parce que nous étions que deux. Ça veut dire pour les manipuler, pour passer d'une prairie à l'autre, lorsque on change par rapport à l'herbe, lorsque on a des changements, c'est important de connaître bien les chevaux. Donc on a un dominant que l'on va prendre, et en sifflant on prend le dominant et hop, tout le troupeau va suivre parce qu'il sait que le dominant c'est celui qui a la bonne idée.
D'accord.
Souvent, on n'est que des hommes ici, mais souvent ce sont les femmes qui ont des bonnes idées, ce sont les juments qui ont des bonnes idées. Voilà, donc, c'est entre nous ça. Hein, et voilà, donc si on prend une leader qui passe devant, voilà. Donc, et donc là, c'était important d'avoir un endroit, alors des choses aussi importantes, mais plus personnel, c'est-à-dire qu'il fallait faire attention que on n'est pas une ligne à haute tension très loin de nous, que on n'est pas des projets d'autoroute ou d'aéroport, que
mais alors les emplacements se sont réduits comme peau de chagrin pour trouver parce
tout à
que
fait. Mais on a une chance extraordinaire, voilà, c'est pour ça qu'aussi il faut être ça c'est important pour lui, il faut être ouvert au clin d'œil qui peuvent passer, pas laisser passer une idée comme ça, c'est
pas
merde, ah là c'est peut-être un signe, voilà, on est arrivé, on a donc, je disais, mon épouse avait fait une petite pause sur le plan Poney Club, donc elle a été sur internet pour regarder un petit peu tout ce qu'il y avait dans le sud-ouest, et par la SAFER on a fait,
c'est-à-dire là
la SAFER, alors SAFER, je ne sais pas le nom.
À quoi ça sert qu'est-ce
que c'est? La SAFER, on va dire que c'est une société immobilière d'État, on va dire. Hein, c'est-à-dire agriculture. L'idée, c'est de protéger les agriculteurs. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se vend, c'est de à peu près ce que je dis, parce que je ne suis pas sûr, et peut-être ça a évolué. Par exemple, en montagne, lorsque c'est autour de 30 hectares, sur la plaine, autour d'un hectare et demi, le notaire est obligé d'en référer à la SAFER,
d'accord,
au cas où un jeune agriculteur voudrait, voudrait s'étendre. Par
Et donc là, il y a un listing avec toutes les...
Voilà. D'accord. Et les agriculteurs à priorité. Bon, alors après, on dit qu'il y a des sous de table. Enfin, ça, je sais pas, mais ça, c'est la... En tout cas, pour nous, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Mm-hmm. Ça veut dire que un matin, on est arrivé à Toulouse à 8h du matin et on avait 8 fermes à visiter que nous avions sélectionnées par Internet.
D'accord.
Par rapport aux critères dont je parlais tout à l'heure, le bien-être des chevaux, notre bien-être à nous, par rapport à certaines choses qui étaient sur Internet. Donc, il fallait vérifier sur le terrain.
Absolument, oui.
Donc, on a passé la journée depuis le Volvestre à peu près.
Oui.
Jusque dans les Landes. Le matin, le responsable à Toulouse nous a dit, écoutez, je me suis permis de rajouter une ferme qui fait 70 hectares. Et moi, je pensais, parce qu'on a vu quelques difficultés sur la fin, là, je pensais plutôt à une pré-retraite.
Oui.
70 hectares, je dis, non, c'est pas possible.
C'est énorme.
Et je voyais toutes les clôtures à faire. Et voilà. Il a été très, très, très diplomate, il a rien dit. Et puis, à un moment donné, il y avait une ferme, on visitait une ferme près de Sauveterre.
Oui.
Et mmh. puis l'autre, elle était, on partait plus vers Milan par là.
Mmh.
Et il dit, mais vous savez, vous, on passe pas très loin, lorsqu'on est à Sauveterre, on est à 4-5 km à la Maguère, c'est pas très loin. Bon, alors on se regarde, mais bon, on va y aller.
Ouais.
Et voilà. Alors là, il y a eu plein de petits clins d'œil, c'est ce que je disais. Par exemple, on avait, lorsqu'on sommes arrivés, il y a plein de petits panneaux LPO, Ligue ouais. Protection des Oiseaux.
Ah, ah, tiens.
On rencontre quelqu'un sur le chemin et on discute un petit peu. Le technicien de la SAFER le connaissait, il discute un petit peu. Et quand on parle, le technicien dit, ah, c'est le monsieur qui habite là, c'est un voisin, il travaille en bio. Ah, donc il y a des petits ouais. clins d'œil comme ça. On est arrivé et le
Et quand il est en train de parler, mesdames, messieurs, il prend le sourire là. Il se rappelle là, il y a les images.
Tout à fait,
ouais,
tout
ouais, ouais, je vois bien, je vois bien, je vois bien. Ouais, ouais. Ouais.
Et alors et donc, oui, là, c'était en plus parce que il y avait des sur les fermes que nous avions visitées précédemment, donc il y a 5 ou 6 avant,
mm-hmm.
on avait été très rapide parce qu'il y avait des choses qui ne convenaient pas. Par exemple, ouais. Les terres étaient de part et d'autre de la route.
Mm-hmm.
Ça
ouais.
ça n'allait pas pour nous. C'était un des critères ouais, ouais. que nous étions fixés. Donc il y avait des. Et là, le technicien, il dit, oh, je trouve qu'on traîne un peu ici. D'une manière ironique, évidemment. Et nous n'avons pas vu le domaine, puisqu'il y a un lac en bas, il y avait.
Ouais, ouais.
Et donc, ça a été, c'est pour ça que ça a été, lorsque vous disiez, ça serait épuisé.
Ouais.
Et la première visite, clac, c'est pas possible. Donc là, nous étions chez des amis, on leur a dit, c'est pas possible, venez voir, parce que c'est pas possible que la première fois, on trouve quelque chose qui nous convienne. Aussi ouais. bien, avec un environnement a priori autour,
mm-hmm.
Nous avions communiqué avec le maire justement pour savoir s'il n'était pas prévu, je disais, d'autoroute, etc.
Ouais, ouais, ouais.
Bon. Et là, le maire au téléphone avait l'air très 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 sympa, avait l'air ouvert, et bon.
Mm-hmm.
Donc c'était quand même, il y avait des points très positifs mm-hmm. dans cette première approche. Bon. Cette première approche. Donc, quelques jours après, nous sommes venus avec nos amis qui habitaient Revel.
Mm-hmm.
Et ils étaient emballés.
Ouais.
Voilà. Donc, alors après, c'était plus compliqué parce que il fallait. Quand on a des projets, c'est facile.
Ouais.
Après, les réaliser.
Les mettre donc, en œuvre, c'est autre chose.
Voilà.
Hein.
Donc, ouais. Après, il y avait les prix. Après, il fallait vendre notre poney club. Il fallait, pour moi, qui était très attaché à tous nos enfants au poney club, on avait 150 enfants sur le plan. Il fallait pas laisser tomber. Bon, ça veut dire qu'il y a toute une bon voilà
une machine à mettre en route.
Mais bon, ça s'est bien passé.
Ouais. Et bien, on va continuer notre petite histoire après une pause musicale, peut-être. Un groupe de saison, il s'appelle Les Passagers des Terres Froides.
Ouais, et ben, ils restent où ils sont. Hein.
La chanson, c'était 10 mois.
On a une autre dose là.
Ouais.
Je suppose d'ailleurs qu'il fait aussi très froid au domaine d'Ansarnaud, dont le propriétaire Christian Vergès s'est passé nous parler du coin. Il nous expliquait un peu comment il est arrivé, comment il a découvert l'endroit. Et il a fallu prendre possession de celui-ci. Donc on va passer toutes les formalités,
tout
etc. Parce qu'il y a dû en avoir pas mal non plus. Mais il y a aussi eu aussi un transport. Moi, c'est ce qui m'interpelle aussi, c'est un transport de chevaux sur une longue distance. Surtout que vous en aviez pas
on,
mal.
On a 24 qu'on voulait descendre.
Ouais, ouais. Et
qu'on pouvait, parce que normalement on avait plus, mais les autres, de par leur âge, n'étaient pas capables
ouais,
de
ouais.
faire le voyage. Donc ils sont restés en Belgique.
Et alors, par train ou par camion, comment, non
par camion. On avait eu l'occasion.
Parce que la distance à parcourir était
1100
combien
km.
1100 km, ouais. Et en une journée, enfin, d'une traite, comment on fait?
Alors
ça,
oui,
comme ça
mais c'est assez, assez réglementé, c'est-à-dire que. On a chargé les poneys. Donc, notre poney club était en Belgique, pour ceux qui connaissent, près de Waterloo.
Mm-hmm.
Voilà,
Morne-Plaine,
le lieu Morne-Plaine. Peut-être pas.
Ça,
voilà.
Ça change de la Morne-Plaine ici. Hein.
Voilà, oui, c'était à Braine-l'Alleud, exactement. Et il y a eu un détour. Je ne sais plus par le au sud de Paris.
Mm-hmm.
Là, c'était obligatoire sur le plan vétérinaire. On a descendu les chevaux, on les a fait boire.
Ouais.
Et il y a eu notre arrêt à l'hippodrome, je crois que c'est du Bouscat, à Bordeaux.
D'accord.
Où aussi, on descend les chevaux, on les fait boire. Voilà.
Ah ouais, qui puisse.
Voilà. Mais sinon, ça s'est fait, effectivement. Il y avait trois chauffeurs. Ça s'est fait d'une seule traite avec ces deux arrêts imposés sur le plan vétérinaire.
Ouais. Et tout dans un seul camion, ça...
Alors un grand camion et une grande remorque. Alors là, ça a été mon souci parce que on parlait tout à l'heure avec Patrick, on parlait des routes, comment je suis arrivé jusqu'ici parce que je craignais un petit peu. Mais en fait, c'était vers chez nous parce que les routes sont très étroites et ça monte, on est sur les coteaux. Hein, donc entre la Lauze et la Ratz. Donc c'est des coteaux où ça monte fort. Et je me disais, mais le camion va jamais monter. Donc j'avais prévu, le long de la Lauze, notre voisine, dont je parlais tout à l'heure, qu'on avait rencontré un bio, on m'avait dit, mais ça fait rien, on laisse le camion là, puis on monte par mes prairies, on montera à pied tous les poneys. Et donc j'ai été attendre le chauffeur, je l'ai pris dans la voiture, il dit, oh non, pas de problème, ça monte. Donc on est arrivé, bon, des chauffeurs vraiment très très bien, qui étaient... aussi bien conducteur que connaisseur des animaux, donc ils ont pris le temps. Il y avait des chevaux qui étaient bien ou qui n'avaient pas envie de descendre. Enfin bon, voilà. Donc on a pris le temps, c'était très très chouette. Et là, ça a été vraiment pas le premier, puisque j'étais là depuis pratiquement un mois à préparer les prairies déjà. Mais j'ai réquisitionné les gens du village, donc on était une douzaine de la Maguère, avec beaucoup de gens qui connaissaient les vaches mais connaissaient pas les chevaux, à part toujours les mêmes voisins qui lui aussi connaissait les chevaux, il avait des chevaux. Mais sinon, donc on a descendu les chevaux, les mettre en prairie assez rapidement avec les gens de la Maguère. Donc voilà, donc c'était un premier contact qui confirmait ce que nous avions vu par les petits clins d'œil dont je parlais tout à l'heure. Donc au point de vue environnement, et puis il s'avère que on est, nous, là, au milieu de 500 hectares en bio. Donc nous travaillons en bio, mais on ne fait pas de production, on fait que du fourrage, mais tout autour, il y a de la production.
D'accord.
Et que nos voisins du village de la Maguère, sans être officiellement bio, donc font plus d'élevage, donc on n'est pas dans des...
Et le terrain, donc, 65 hectares, il est clos?
Alors, il y avait une partie qui était... que j'ai pu récupérer certaines clôtures, il y en avait... Mais j'en ai fait beaucoup, j'ai clôturé tout, oui.
Tout est clôturé. Mais c'est énorme, ça.
Oui. Mais bon...
Il fallait prendre plusieurs équipes à faire les 3-8, là, non?
Mais non, mais on l'a fait en plusieurs fois. C'est-à-dire que, donc, comme je disais, là, je suis arrivé après un mois avant que les chevaux n'arrivent. Je suis arrivé avec mon fils, on a commencé à clôturer 4 hectares ou 5 hectares. Et puis alors on y a été progressivement. Il y avait des endroits où il y avait des clôtures que j'ai pu récupérer, extérieures que j'ai pu récupérer, donc des grillages que j'ai pu remonter. Et puis ce n'est que l'année suivante qu'on a un grand lac qui fait 1,5 hectare, qui est du côté ouest de la propriété.
Naturel ou...
Non, c'est quelqu'un qui avait fait des expériences.
D'accord.
Et qui avait fait un lac collinaire parce qu'il pensait faire des céréales dans la propriété, mais... C'est une propriété, c'est comme la région là, c'est des terres pauvres, c'est des terres argilo-calcaires, donc ce sont des terres d'élevage, mais pas pour faire de la culture intensive.
Ouf.
Mais enfin, voilà, le lac, on profite bien, c'est bien. Hein,
donc,
bien
sûr, oui. Et donc, le troupeau maintenant, il y a combien d'animaux?
20.
Et semi-liberté, on peut dire?
Tout à fait,
Tout à fait. Semi, parce qu'il y a bien des barrières à un moment, mais liberté, ils font ce qu'ils veulent.
Voilà, mais là, on retombe un petit peu dans ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à nos enfants du Poney Club et nos poneys. Il y a un cadre dans lequel ils sont libres, c'est important pour l'éducation, c'est important pour leur bien-être.
Et parallèlement donc au troupeau, au poney, vous avez créé des gîtes.
Voilà, oui, parce que professionnellement, il fallait qu'on gagne notre vie.
Ah bon, ça tombe pas comme ça?
Non, pas du tout. On pensait aussi, mais on s'est rendu compte sur le terrain que
c'était... On pourrait le croire.
C'est pas comme ça qu'il fallait commencer à acheter des piquets de clôture, acheter... Voilà, donc, bon, et nous étions très intéressés toujours, parce qu'on s'était rendu compte déjà au Poney Club, que... lorsqu'on recevait les enfants, on voyait leurs parents et on avait chaque fois des enrichissements assez extraordinaires parce que on avait des gens qui venaient de tout milieu, on avait pas mal de gens des communautés européennes puisque nous étions à 20 minutes de Bruxelles, c'est-à-dire qu'on avait des Suédois, on avait des Espagnols, on avait des Italiens, on avait des Allemands, on avait des autochtones. Et chaque fois, c'était très enrichissant. Il nous a mené chaque fois des idées, des projets. Donc, toujours pareil, écouter un petit peu.
La rencontre, c'est... Ouais, oui.
Voilà. Donc, on repartait dans cette idée pour nos gîtes. C'est l'apprentissage quotidien et le partage. Voilà. C'est ce que vous faites, vous, ici, à la radio. Lorsque vous, le partage, c'est très, très important. Parce que la chance qu'on a, si on peut partir... d'une marche au-dessus parce que quelqu'un a déjà vécu cette épreuve, bon, mais c'est extraordinaire. Donc là, cette idée-là de gîte, nous, on travaille depuis toujours en bio, on a toujours dans cette dynamique.
Vous êtes un peu des précurseurs dans votre histoire.
Un petit peu, oui, c'est vrai, un petit peu, mais bon, comme on ne communique pas beaucoup, ce n'est qu'après qu'on se rend compte, tiens, c'est ça, on avait déjà pensé à ça.
Donc les gîtes.
Et alors les gîtes, il y avait donc un bâtiment type Oastarac, c'est-à-dire en T, bâtiment l'habitation des fermiers qui était exposée à l'est, et les bâtiments agricoles qui étaient exposés nord-sud. Donc on a décidé de rénover tous ces bâtiments. Alors il y a eu beaucoup de travail parce qu'il y a eu les dégâts qui ont pu être faits dans les années 60, c'est-à-dire que tout ce qui était bien dans le Oastarac et ailleurs, en terre notamment, il fallait crépir et du béton, et du coup on avait des maisons qui respiraient plus, c'était catastrophique, quoi. Bon. Alors il a fallu commencer à enlever tout ce crépi, voilà, on est parti là-dedans. Et on a eu beaucoup de chance, parce que dans notre malchance, mon épouse Marianne était architecte. Ça peut aider. Donc elle avait pas mal de notions par rapport à l'orientation, par rapport à l'isolation, par rapport à la lumière, enfin tout ça. Et notre premier architecte qu'on avait choisi, Bio, qui était quelqu'un qui était, pour des raisons dont on ne parlera pas ici, que je ne connais d'ailleurs pas, nous a laissé tomber. Donc on a dû trouver un nouvel architecte qui a accepté de prendre les plans, les premiers plans, mais qui était disponible que l'année suivante. Nous pensions faire les travaux en septembre 2005. Et les travaux n'ont commencé qu'en mars 2006. Et nous avions déjà des réservations pour les gîtes pour juillet 2006.
D'accord. Waouh.
Donc voilà. Donc ça a été heureusement
chaud.
Nous avons eu une chance extraordinaire. Là aussi encore, on a...
Il n'y aurait pas une petite étoile comme ça, une bonne étoile au-dessus d'Ansarto là, parce que...
Ansarno. Peut-être, oui. Peut-être. mais je pense qu'il faut l'aider aussi, l'étoile. Voilà.
Ouais.
Il faut la tirer de temps en temps. Et là, on a eu l'entrepreneur local, un voisin qui est Beau Reinhardt, qui a une entreprise de bioconstruction à Simor, Simor Rénovation, qui a compris de suite qu'on avait une chance, qu'on avait des gens qui allaient arriver le 15 juillet, et puis alors après, il y en a d'autres qui ont même forcé la main qui sont arrivés le 1er juillet. Alors là, ça a été assez extraordinaire, parce qu'on a revu notre environnement, notre voisinage, c'est-à-dire que bon, là, les entrepreneurs, enfin les petits entrepreneurs qui nous ont aidés d'une manière plus importante que ce qui était prévu, c'est-à-dire par exemple le monsieur qui est venu pour faire les filtres plantés et les citernes de pluie. Moi j'avais loué un compresseur pour faire la route, il m'a dit non mais tu as vu tout ce que tu vas faire, allez c'est moi qui le fais gratos, c'est moi je te l'offre. Donc hop, il a pris deux jours comme ça. Le plombier pareil, il me dit, mais attends, toutes les hautes et tout ça, si tu as vu tout ce que tu as à faire, tu as la peinture, je le fais. Enfin bon, ça a été extraordinaire, on a eu, jusqu'au dernier jour, puisque c'était le vendredi soir, bon là, mon épouse et moi, on travaillait jusqu'à 4h du matin à peindre, heureusement on avait la peinture bio, donc les gens pouvaient rentrer dans le...
Pas de mauvaise odeur,
pas de problème par la suite. Jusqu'au samedi matin, 1er juillet, donc 2006, où on attendait les gens du gîte à 4 heures. Et là, on a eu défilé des voitures, des gens, des femmes d'abord, puis après des hommes, qui sont venus avec les balais, les aspirateurs, on a, avec des jeunes du village dans le grand hangar qui est maintenant devenu la stabulation des chevaux. Il y avait les réfrigérateurs, parce qu'on a travaillé jusqu'à la fin, donc on a installé tout le samedi. Donc, et à 4 heures moins le quart, On avait terminé à 80 MHz. Dommage, j'ai pas fait de photo parce que ça aurait été bien depuis 8 heures.
De voir la progression.
À 4h moins le quart, on avait terminé. Et Marianne, mon épouse, avait préparé une table avec du. Donc tout le monde a dit non, maintenant ils vont arriver. Alors tout le monde s'est barré. Donc on a vu que j'avais oublié la bétonnière, j'ai oublié l'étiquette sur les Velux. Enfin, bon, j'ai dit aux gens, écoutez, vous nous avez forcé la mer, regardez, on est un peu. Mais voilà, donc on a réussi. Mais là aussi, ça a été, on s'est rendu compte que on pouvait tenir compte de la solidarité. Ouais. Et là, parce qu'il y a des gens qui me disaient, mais votre voisin, il est loin. Oui, il est loin, mais si on l'appelle, il est là de suite. Quoi. c'est important.
Ouh là 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 là. Voilà, donc ça doit faire du bien par où ça passe quand on tombe dans un coin comme
tout
ça.
Tout à fait.
Tout à fait. Et c'est pas si courant que ça non plus.
Voilà. Apparemment, ouais. Mm-hmm. Alors,
ce qui n'est pas courant, c'est la musique qu'on entend sur les ondes de Radio Coteau.
C'est le grand retour du groupe Blancas après quelques années de silence, qui reviennent donc avec un nouvel album intitulé Les Chevals. Mmh. J'ai bien dit Les Chevals.
Mmh. Moi je dis Les Poneys.
D'accord, oui. Et qui est-ce qui dit Les Poneys? C'est Christian Vergès qui vient nous parler du domaine d'Ansarnaud. Dans le Haut Astarac. Là, on était avec les gîtes. Maintenant, ça roule. C'est une histoire qui roule, là, maintenant.
Oui, mais bon, il y a les gîtes, mais autour, il y a notre région, notre domaine, ouais. Comme on disait, mm-hmm. Notre région qu'il faut faire connaître. Donc, il faut quand même. On est isolé. Hein, mm-hmm. Les gens ne vont pas venir nous chercher. Donc, il faut qu'on se présente. Donc, on fait 4 salons, mais des salons bio. On a pris cette décision de faire des orientations de salons bio. Mm-hmm. Donc mon épouse fait 2 salons en Belgique, Nature et Progrès, un à Bruxelles, l'autre à Namur.
Ah, oui.
Moi je fais un salon à Paris, Bâtir écologique, mm-hmm. Qui est un salon de regroupement d'éco-constructeurs.
Oui.
Et là on m'a demandé de venir, maintenant ça fait 7 ans, on nous a demandé de venir maintenant ça fait 7 ans, parce que on représente une mise en situation, puisque nos éco-gîtes, y a de la cellulose, de la ouate de cellulose pour l'isolation, mm-hmm. On a du bois du pays, mm-hmm. On a des filtres plantés pour l'assainissement, on a des citernes de pluie, on a du solaire. Donc on est dans cette démarche et il nous arrive régulièrement d'avoir des gens qui ont envie de construire, que ce soit des autoconstructeurs ou des gens qui ont envie de faire leur maison, mm-hmm. mais qui sont dans cette démarche avec des soucis d'économie, même si ce n'est pas dans un premier temps des soucis de bioconstruction, mm-hmm. des soucis d'économie.
Et de bien-être aussi.
Et de bien-être aussi. Oui. Mais ça, souvent, ils le voient qu'après, lorsqu'on est dans un problème d'économie, à dire le mazout ça coûte cher, l'électricité ça coûte cher, mm-hmm. ça va coûter cher, il n'y en aura bientôt plus. Mm-hmm. Bon, peut-être qu'on a d'autres choses à faire. Même si ce n'est pas leur première sensibilité, ils le trouvent après, effectivement. Mm-hmm. Donc, après, c'est ça. Donc, il nous arrive régulièrement, parce que je parlais tout à l'heure des entreprises qui nous ont beaucoup aidés, mm-hmm. on a toujours gardé des contacts avec tous ces gens-là, mm-hmm. qui sont très sensibles à ce genre de construction. Donc il nous arrive qu'on fasse sur une semaine, on propose un parcours, c'est-à-dire que des gens, on prend rendez-vous avec l'architecte, on prend rendez-vous avec, par exemple, Gérard Vivès qui fait de la terre à l'île Arnais. Oui. On prend rendez-vous avec Borénard, mm-hmm. avec Daniel Jacob, des gens qui font l'isolation de la paille au saturbois, toutes sortes de... Mm-hmm. Et on leur fait un programme sur la semaine, donc ils vont voir ces entrepreneurs sur le chantier.
D'accord.
Ça leur donne des idées, les entrepreneurs prennent un peu de temps avec eux, demi-heure, une heure, mm-hmm. voir... où ils restent, voir ce qui se passe. Voilà, donc c'est les gens qui viennent chez nous, souvent, ils viennent par ces salons-là. Il doit y avoir à peu près 50% des gens qui sont déjà... on va dire au total 50% de gens qui ont une sensibilité bio, mmh. sensibilité, disons...
à l'écologie.
À l'écologie, voilà, c'est ça.
D'accord.
Mais bon, on a d'autres éléments importants. C'est, ce que l'on développe, c'est en plus, c'est donc les poneys, puisque les poneys, on est en zone nature à 2000, ça veut dire que les poneys nous aident à ouvrir ces espaces, puisque mmh. c'est quand même des terres qui ont été abandonnées pendant plus de 25 ans.
Mmh.
Donc, on a ces poneys qui nous aident, qui nous permettent aussi, puisqu'ils sont montés, de faire de l'enseignement. Nous sommes tous les deux moniteurs d'équitation.
Donc ouais. Mais la pratique des poneys, pouvoir monter les poneys, c'est réservé aux gens qui sont au gîte ou bien c'est
tout à fait. D'accord. Réservé aux gens qui sont au
gîte. D'accord.
Oui, nous sommes que tous les deux et on a beaucoup de choses à faire.
Ah, c'est énorme.
On parle de 65 hectares, donc il y a les clôtures, il y a l'entretien à faire, des chemins. On a créé beaucoup de chemins puisque là, c'est resté presque pendant 25 ans sans être occupé. Mm-hmm. Donc ça veut dire beaucoup de chemins, beaucoup d'endroits. J'ai commencé à reprendre avec le sécateur, puis la débroussailleuse, puis le girobroyeur. Bon, maintenant, oui. Des chemins qui... Et ces chemins, on a essayé de leur donner une certaine individualité. Donc on a les chemins qui s'appellent la licorne, qui s'appellent Pégase, qui s'appellent le Sleipnir, qui s'appellent le Centaure. Mm-hmm. Et mon épouse... Et notre fille fait des costumes et des corps de théâtre, donc elle vient de temps en temps, elle va venir la semaine prochaine, certainement qu'elle va faire le Centaure. Elle a fait Pégase, donc elle a fait un grillage de ce qui est sur accroché à 5 mètres de haut. Donc c'est sur le chemin de Pégase, les gens doivent trouver, souvent ils passent à côté. Alors, dans cette approche, c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui nous a dit un jour, en partant, il nous a dit, mais c'est extraordinaire, chez vous, j'ai appris à marcher sans regarder mes pieds. Pour moi,
ça, c'est un compliment.
Un compliment extraordinaire. Ouais, ouais. Voilà. Et parce que, justement, en regardant Pégase, et puis à un moment donné, Pégase, c'est
le chevalier,
elle s'est mise à regarder en l'air. Mmh. Et elle a pris, voilà. Donc, c'est très intéressant pour moi aussi sur le plan équitation, parce que souvent, sur le plan équitation, les gens sont un peu introvertis. Donc, Des fois comme ça, ils regardent les oreilles du cheval, mais s'ils ont un projet, d'un seul coup, hop, ils s'ouvrent, ils regardent loin, et lorsque on regarde les silhouettes pour être sûr qu'on est sur le bon chemin du Centaure, mmh. ou de la licorne, voilà. Oui. La licorne qui est en clématite sauvage, voilà. Donc, les chemins, on les a ouverts pour se promener, mais aussi avec des projets. Donc, lorsque des familles ont des petits-enfants, par exemple, c'est le cas cette semaine, ils ont été se promener sur la licorne, et là, les parents ont préféré après. Il y avait deux enfants, un petit garçon qui avait 4 ans et l'autre qui avait 7 ans. Mm-hmm. Donc, on a des petits livres sur la licorne, un très beau livre de Martine Bourg sur la licorne, donc très très bien illustré avec la légende de la licorne. Mais un autre pour plus âgés, pour le 7 ans, qu'on leur donne comme ça le soir, ils lisent. Voilà,
Mais alors, la zone reste complètement naturelle, vous n'avez pas rajouté de végétaux ou de choses comme ça, vous laissez naturel.
Tout à fait, on a des contrats naturels du milieu, c'est-à-dire qu'on a des obligations.
Il faut laisser.
Tout à fait. Ouais. On a des obligations. Bon, on travaille en bio, donc on n'a aucun apport que l'on fait, évidemment. Mm-hmm. Et on a des. On a quand même, par rapport au troupeau, il faut qu'on ait un minimum de bêtes pour ne pas avoir de surplus sur le plan effluent, sur le plan...
Oui.
Mais là, on n'a pas de problème, hein, on a 20 poneys. On a des contrats qui nous incitent, qui nous obligent, voire même, à ouvrir certaines zones pour retrouver... Des prairies naturelles.
Quoi. D'accord. Parce que dans le Gers, on trouve au niveau, on trouve des orchidées, par exemple, d'autres plantes entre guillemets rares. Chez vous, ça se trouve ?
Tout à fait. Là, à partir de, ça dépend des années, mi-mars, fin mars, on a les orchidées qui commencent à sortir. Là, on a une trentaine d'espèces d'orchidées sur la propriété. Alors là, c'est extraordinaire. D'un seul coup, ça, les orchidées se succèdent. Alors bon, sur le plan faune et flore, autre flore, c'est très important. On a l'engoulevent qui niche chez nous. Donc c'est pour ça que le bio, c'est important. Voilà, qui niche. On a. Alors là, c'est très important, c'est très intéressant. Là, je fais un petit en arrière parce que je pensais à ces problèmes qu'on a eu ces derniers 10 jours avec le froid. Ça nous permet aussi de positiver, parce qu'on a eu, par exemple, d'un seul coup, on a eu plein de vanneaux huppés.
Oui.
Et alors, et les gens du vide, comment ça se fait? Vous en avez d'habitude? Mais non, pas du tout. Mais les vanneaux huppés, normalement, l'hiver, ils restent en colonie.
Tout à fait.
Près Vous êtes au courant puisque vous avez reçu monsieur
Hermann Menzel.
Donc il reste en colonie près des plans d'eau.
Ouais.
Mais là, quand il fait froid comme ça, ils se séparent pour que chacun puisse survivre. Donc là, toutes les prairies qui étaient plus au sud et qui ont été assez vite déneigées, hop, on les voyait chercher les vers, ils étaient vraiment là. Donc ça, plus, je voulais arriver au Milan, puisque là, normalement, l'été, on a pas mal de Milan, on a beaucoup de rapaces, hein, mais des Milan noirs. Là, maintenant, les Milan qu'on a, c'est des Milan royaux, hein, des Milan qui viennent du Piémont. Parce que justement aussi, ils se rapprochaient de l'endroit où ils pouvaient mieux se nourrir.
Voilà. Ouais. Oui, c'est marrant le vanneau. C'est pas à Jérémy hier que j'ai montré un vanneau de l'autre côté de la route ou à Patrick, hein, qui avait un vanneau qui était tout seul là ici là.
C'est bien à moi, oui.
Ah voilà, ouais. À part ça, les oiseaux, parce que moi, disons, le PO refugiait le PO, donc vous les comptabilisez? Non, pas du tout. Vous les contemplez simplement.
On les contemple. On a la chance, justement, on parlait d'échanges. On a la chance d'avoir souvent, régulièrement des gens qui sont très très compétents et justement qui nous enrichissent en expliquant par exemple les vanneaux, ce que je viens d'expliquer là, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, je le retransmets parce que j'étais aussi étonné et puis un copain m'a dit mais c'est normal, il me dit voilà c'est comme ça ce que je viens d'expliquer. En ayant l'air savant, en fait, je ne l'ai pas appris il y a pas très longtemps. Voilà, donc voilà, mais tout ça c'est non, par contre, alors de temps en temps, il y a des gens qui viennent regarder, répertorier. Et alors, par rapport au contrat Natura 2000, on a deux fois par an au moins, on a des gens qui viennent faire des inventaires.
Ouais.
Par rapport justement à l'éclosion de toutes ces orchidées, puisque quand c'était pas pâturé, quand il y avait cette déprise. Il n'y avait pas d'orchidées, la lumière n'arrivait pas, c'était sous les ronces, sous les prunelliers. Maintenant, les chevaux nous ont aidés, on a nous aussi fait un peu de débroussaillage mécanique. Je disais au début sécateur, puis débroussailleuse, puis Jérôme Royer. Bon, mais c'est juste les chemins, on laisse vraiment des lieux importants pour que les animaux puissent aller se planquer ou puissent aller manger, puisque quand même les prunelliers c'est très intéressant, il y a plein de baies, de bonnes baies pour beaucoup d'animaux, hein. Les oiseaux sont très contents.
Et nous retrouvons Maître César qui est en train de discuter avec son invité parce que c'est très très intéressant.
Qu'est-ce qu'il dit?
Bonjour.
Et bonjour Patrick.
Vous êtes toujours là?
Oui, j'étais en train de papoter avec notre invité, comme on dit dans la profession, hors antenne.
Hors antenne, oui. Pendant la pause musicale.
Hors micro, oui, en plus.
Qui vient juste de se terminer.
Ah bon, ça y est?
Oui, voilà, c'est à toi maintenant.
Ah, merci. C'est à nous avec Christian Vergès qui nous parle du domaine d'Ansarnaud, plus pour très longtemps, parce qu'on va le rendre assez bête, parce qu'elles ont soif, les bêtes, il faut les nourrir aussi un petit peu, peut-être. Site protégé Natura 2000, site LPO, éco-gîte, déponnés en semi-liberté, tout ça, ça mérite d'être, je sais pas, peut-être pour ceux qui aiment la photo, d'être pris en photo, pour ceux qui aiment le dessin ou la peinture, d'être fixé sur une toile. Vous organisez pas des séjours spécialisés ou bien il n'y a pas moyen de faire quelque chose?
Si, parfois, alors... On essaie d'orienter un petit peu parce que à partir de, on disait tout à l'heure, à partir de mi-mars, on a les orchidées partout. Donc là, on a des passionnés d'orchidées, de photos qui sont intéressés et qui viennent, qui se déplacent. On a, dans le cadre des journées nature en Midi-Pyrénées, on a cette année, c'est le jour de Pentecôte, le dimanche, pardon, de Pentecôte, je crois que c'est le 27 mai, me semble-t-il. On a une journée nature où on fait sur la journée, ça commence à 9h30 le matin, on a des gens qui sont invités, enfin tout le monde vient, c'est une journée gratuite de découverte de l'environnement, donc en Ouastarac, c'est rendez-vous chez nous, et on a des groupes de 12 personnes qui partent avec, dans le groupe, quelqu'un qui va guider puisqu'il connaît le chemin qui est proposé,
oui.
Et des naturalistes qui eux sont spécialistes, donc qui connaissent et les orchidées et les animaux et qui peuvent répondre à toutes les questions que pourrait se poser le promeneur. Donc
oui.
On va à notre rythme. Sur le parcours, on a deux ateliers ludiques qui sont animés par des gens du CPIE. L'an dernier, par exemple...
Le CPIE.
Voilà.
Ça, c'est des gens bien.
L'an dernier, ouais. on avait près du lac, avec des éprouvettes, on avait regardé un petit peu la vie de tous ces insectes dans l'eau. Et un autre, c'était un jeu, j'ai oublié le nom indien, les jeux enfin c'est un assemblage, c'était, j'ai oublié, non, vous allez m'aider tout à l'heure, c'était sous forme, il y avait un escargot qui était dessiné,
oui.
un dessin d'escargot, les groupes arrivant, quelqu'un avait l'idée de prendre pour construire cet escargot, enfin ou plutôt pour... j'ai du mal là.
Ouais, je vois, oui.
Donc, on prend une feuille de noyer, par exemple,
ouais.
Et les promeneurs du même groupe prennent tous la fleur de noyer, la feuille de
noyer.
Donc, l'animatrice explique que c'est tel noyer, etc. Et on l'installe, et petit à petit, on va remplir, colorier, je dirais, cette coquille d'escargot. Donc, il y a le côté... naturaliste, puisque les gens, lorsqu'ils vont chercher une fleur, une feuille, une branche, ils ne savent pas ce que c'est, mais la fille est là pour... Mais en plus, en fonction des couleurs de l'herbe, comment on appelle ça ?
C'est pas les tantras, non ?
Hein ?
Tantras, non ?
C'est
un peu dans le même principe ?
Bon,
mais tant pis, c'est pas grave.
Tu vois pas.
Mais vous repasserez, bon.
Bon, on repassera pour ça. Voilà, donc deux animations... Et une conteuse, donc cette année, elle sera sur la licorne. L'an dernier, elle a fait Pégase. L'année avant, elle a fait Sleipnir, le cheval à huit pattes. Donc, tous les ans, c'est un conte différent, près de l'installation dont on parlait tout à l'heure.
Et ces chemins, là, pour en revenir aux chemins qui ont pris des noms, non pas des noms d'oiseaux, mais des noms de chevaux mythiques, y en a long de chemins ?
Ah ben, c'est les gens peuvent partir demi-heure, une heure, trois quarts d'heure, deux heures, voilà, c'est... ils ont un plan, donc ils peuvent voir un peu où on les conseille. On leur dit, voilà, si vous n'avez pas envie de beaucoup marcher, vous pouvez aller à la licorne, là, ça fait trois quarts d'heure. Si vous avez encore envie moins de marcher, vous faites les poissons, parce que ça va jusqu'au lac, un petit tour. Sur le lac, il y a un module musical. Si vous jouez la bonne musique sur les côtes du cheval musical, vous avez les hippocampes qui sortent du lac. Voilà, donc il faut... Voilà, donc
mais c'est plein de magie par là-bas.
Plein, voilà, donc... Et ce qui est très intéressant, je vais continuer. Donc, dans la journée nature, c'est intéressant parce qu'on essaie de montrer les richesses de notre région. C'est-à-dire qu'à la fin de la promenade, on a un petit marché bio et local. Donc, des gens qui ne sont pas bio. Donc, on a nos voisins, les Soulas là, qui font une transformation de canard et de mouton. On a un fromager. On a quelqu'un qui fait du miel. On a le boulanger qui vient tous les jeudis, qui vient nous livrer le pain, le boulanger bio. Bon, on a et qui viennent là, ça veut dire que les gens, on a à Montcorneille, on a quelqu'un qui a une cave et qui est réputé nationalement, oui, sur le plan national, il a eu qui est très très compétent, donc qui nous laisse du vin. Donc les gens peuvent, s'ils ont envie, après leur promenade, se retrouver. Donc la stabulation qui nous sert d'accueil pour les chevaux, les vaches, l'hiver, tout est nettoyé, donc il y a des tables là, et on peut manger. Et l'année passée, la promenade avait terminé, on avait terminé vers 1h de l'après-midi, et à 7h du soir, il y avait encore des gens qui discutaient. Bon, voilà, c'est très convivial.
Vous aviez même envie de les foutre à la porte à coups de balai, non ?
Ouais.
Non. Mais ils s'incrustent, ceux-là. Oui, et là, c'est...
Et alors là, justement, on avait introduit l'an dernier dans cette petite promenade, des actions artistiques pour certaines personnes. On rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on leur demandait, en prenant certaines herbes, de colorier certains dessins qui étaient préparés dans un petit carnet. Donc les herbes étant couleurs, donc ils étaient assez surpris de pouvoir colorier en rouge ou en jaune ou en mauve en fonction des herbes qu'ils avaient. Donc on a vu cette idée. L'année d'avant on avait fait plus ce que fait mon épouse maintenant, c'est-à-dire plus, on parlait tout à l'heure de croquis. Donc là maintenant c'est institué depuis le mois de septembre, tous les jeudis, elle a des personnes qui viennent dans l'idée de se promener en croquant, en regardant, voilà. Et elle est très très contente, et certaines personnes aussi, parce que beaucoup de gens disaient, mais non, moi je ne sais pas dessiner. Bon, et elle leur disait, attendez, vous savez écrire, donc vous savez dessiner. Il faut du temps, il faut la prendre autrement, donc il faut travailler avec le cerveau droit. Bon, donc... elle est plus apte que moi pour parler de tout ça, mais voilà. Et effectivement, là, il y a quelqu'un qui a commencé en septembre et qui a été à l'animation qu'elle a programmée, enfin non, qu'elle a mis en place pour Roche, voilà. Quelqu'un qui ne savait pas dessiner et s'est étonné de voir sur Internet avec des dessins qui venaient d'Osaka ou de Vancouver ou de New Delhi. Elle a vu son dessin qui était là, elle a dit, mais c'est pas si mal. Donc c'est assez intéressant parce que c'est des prises de conscience, puisque la manière dont on aborde le dessin est assez différente.
Vous abordez le dessin comme vous abordez les chevaux.
Voilà,
avec respect.
Oui, tout à fait.
Et j'ai entendu dire qu'il y en a qui venaient avec la bicyclette.
Oui, alors certains viennent avec la bicyclette volontairement parce qu'ils connaissent notre terrain accidenté, puisque nous sommes entre Loz et Arras, c'est-à-dire que nous sommes sur des coteaux. Nous sommes à 300 mètres, mais on redescend très vite, mais pour redescendre, lorsqu'on est redescendu, il faut remonter. Donc il y a certaines personnes qui viennent volontairement, qui s'entraînent, qui sont avec en train de se mesurer le cardiaque, le poulet,
c'est quoi. Ou des furieux, là, des vrais.
Des vélos qui coûtent, moi je connais rien, mais qui coûtent 1 500 euros. Et puis d'autres qui viennent avec le VTT, et puis ils sortent une fois. Et puis alors après, bon, soit ils ont envie de faire du vélo, alors ils descendent dans la vallée et puis ils restent le long de la Ratz ou de la Loz, le long de la rivière, il n'y a pas de problème, la route, on est plat. Mais après, ils remontent avec la voiture, les vélos dans la voiture. Ou alors ils ne sortent plus les vélos. Voilà, donc. Voilà, mais bon, ça fait partie des surprises de la région. C'est que il faut se laisser apprivoiser, il faut prendre le temps. Il y a plein de petites chapelles, il y a plein de... Donc les gens, souvent les gens arrivent, ils se posent, et ceux qui prennent le temps d'aller se promener, de prendre un peu, très vite, ils reviennent après, quoi, parce que c'est quand même une très très belle région. Mais bon, voilà, c'est...
Un contact peut-être, déjà le site internet.
Oui, www.ensarnaut.com. Numéro de téléphone 05 62 65 03 58.
Voilà. Et là, on aura tous les renseignements possibles, imaginables, si on est intéressé par faire un petit tour du côté du domaine d'Ensarnaut. Patrick, aurais-tu une question qui te passerait
par rapport au site? C'est vous qui l'avez fait, ce site internet?
Alors, on a toujours eu la chance de travailler en famille. Je disais tout à l'heure, notre fille vient la semaine prochaine et elle va sûrement faire le centaure avec mon épouse. La semaine passée, par hasard, il y avait notre fils qui, lui, est informaticien.
Ça aide.
Voilà, et donc il nous a aidé à remettre des choses au point.
Il est vraiment bien.
Ah, c'est gentil.
Ah oui,
c'est
franchement, il est très facile d'accès, et puis il y a tout, quoi. Franchement, je me suis régalé en visitant le site.
Mais il nous remet constamment en question, parce que on n'est pas, ni Marianne, mon épouse, ni moi, on n'est pas du tout technicien, si bien que, de temps en temps, je peux le dire, parce que maintenant c'est devenu... Il se demande s'il n'a pas été adopté.
Voilà, donc si vous voulez jeter un coup d'œil au site, apprécié, c'est www.ansarno.com. A-U-T en Sarno. On va se quitter, bon copain, donc, monsieur Christian.
Avec plaisir.
Cependant, avant que je vous relâche dans la nature afin d'aller rendre visite au troupeau, je vais vous poser la question. Vous avez remarqué que c'est une discussion que nous avons eue, mais pour clore notre rencontre, il y a la question. C'est une question que je pose absolument à tous les intervenants sur cette antenne.
Il y en a beaucoup qui s'en sont jamais remis.
Homme ou femme, jeune ou enfant, jeune ou personne âgée, c'est toujours la même question. Et la question est la suivante. J'aimerais bien, Christian Vergès, savoir ce qui vous passe par la tête en ce moment. Alors voilà, vous êtes sur une radio libre, donc vous avez le droit de dire ce que vous voulez. C'est ce qui vous passe dans la tête en ce moment, face à moi, ou bien dans l'air du temps. Voilà, c'est pour vous exprimer sur ce que vous voulez. Alors.
Non, mais moi j'ai passé un agréable moment. Ça, c'est ce qui me passe par la tête.
Ouais.
Une très bonne équipe, une bonne ambiance.
Merci.
Et moi, je vais faire votre promotion parce que je trouve que. J'ai été très bien accueilli, très bonne musique, j'ai découvert des groupes, même si on discutait, dans une période de musique, j'ai quand même écouté avec une oreille.
Et il est un peu comme ces poneys, il y a toujours une oreille qui reste dressée comme ça. Hein.
Voilà. très très bon accueil, je vous remercie tous les trois. Puis une prochaine fois peut-être.
Avec grand plaisir. Ouais. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement et vive le domaine dans Sarno. Hein.
Merci à vous trois.
Au revoir.
Radio Coteau, 97.7, 104.5.